séance de plus à la maison populaire de Montreuil, une séance de plus un jour de grand froid, une séance où il sera question d'embrayage en anglais, de shifters qui ont d'abord pris consistance à propos du langage, à propos de la théorie de la langue, à propos de ce genre de signes particuliers qui font que certaines phrases résonnent ou ne résonnent pas. Et quand on parle, parfois on dit « je », on dit « tu ». Je ou tu, quand on dit ici, ceci, cela, il y a une déchirure qui se produit parce que ce terme de je, si je le mets dans ma bouche, vous allez penser qu'il me désigne, mais aussitôt que vous le prenez dans la vôtre, il prend une toute autre consistance et pourtant c'est le même signe. Les shifters, dans la zone du langage, ont d'abord servi à montrer que, probablement non, les signes ne valaient pas sur la zone de consistance homogène d'un système clos. C'est quelque chose qui a surpris ceux qui s'intéressaient à l'ordre du langage, ceux qui, depuis le début du XXe siècle, avaient envie de faire confiance aux structures, ceux qui, dans la structure, avaient envie de la penser comme close, comme serrée frileusement sur elle-même, comme capable de faire germer du sens, simplement à partir de la concaténation, à partir du frottement, de la rupture, des petits morceaux de vocables, de mots, les uns avec les autres. Et le problème du shifter, tel que on le travaille ici à quelques-unes et à quelques-uns, à partir des textes de Guattari, c'est cette zone de consistance qui ne prend jamais appui seulement sur elle-même, mais qui doit être pensée dans un frayage où il y a sans arrêt de l'hétérogène qui bifurque, imperceptible bifurcation, comme Deborah Walker nous l'a montré, nous l'a fait entendre aussi dans la zone de frottement entre des sons de violoncelle et des mots de parole humaines et qui résonnent plutôt presque en français. Il y aura du français ce soir, il y aura aussi d'autres verbiages, il y aura de la philosophique langue, il y aura de l'espagnol envoûtant, il y aura du ceci et du cela. Il y aura un moment de réflexion où on essaiera ensemble d'entrer, comme certains aiment le dire, en percolation. Et la percolation, il y a un côté caracolage de chevaux, il y a un côté rupture et masse de fluide. On parle de percolateur pour le café, parce que percolation veut dire simplement changement de phase. Changement de phase, c'est bien ça qu'on avait en vue, Pascal Criton et moi, quand on a mis comme titre de la soirée « Shifters de subjectivation », qui d'un autre côté semble bien incroyable et bien difficile à entendre. Subjectivation, oh, ça a l'air très compliqué, et shifters également. Mais, alors, d'abord il y a cette idée de bifurcation qui est simple à faire jouer. On vient de la faire jouer tout de suite, on la fera jouer tout au long, par exemple, d'une hésitation de parole, d'un moment où on ne sait pas où ça va. Mais l'autre chose qu'il faut tenir dans la même main, c'est que il n'y a pas une rupture qui se produit après une zone de stabilité, il n'y a pas du stable et puis après de l'instable, que nous ne sommes pas plutôt ceux de l'instable par opposition à ceux du stable, mais c'est la stabilité elle-même qui est en son cœur en train de se déstabiliser. Nous sommes des êtres du métastable. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Cette métastabilité, on a essayé plusieurs fois ici de la faire résonner, de la faire résonner en écho avec des lectures, de la faire résonner avec d'autres modes de bric-à-brac, de signes capables de nous émouvoir et de nous toucher. De nous toucher, comme Pascal Cruton va le faire, dans une seconde. Je touche le micro.
Et en effet, bon, le shifter, c'est un mot qui n'est pas si employé, si fréquemment employé, hein, dans les livres et les lectures qu'on s'est données, celles de Chaosmose, qu'on a pour compliquer les choses, déjà que c'était pas assez compliqué, donc on a surajouté une strate de lecture, celle de l'inconscient machinique, puis d'ailleurs on voit bien qu'en faisant ça, il y a d'autres calques qui arrivent, qui tous traitent des mêmes questions, celle du mouvement, celle de l'instable, effectivement, mais avec des époques ou des contextes différents. Alors, si on imagine que ces cartes ou ces moments font des cartes et qu'elles sont des calques un peu, qu'on les superpose, ce qui n'est pas la théorie de la copie et du calque là, mais dans l'effet calque, et de voir comment certains mots, certaines notions dans la pensée de quelqu'un comme Guattari, puisque c'est lui l'auteur auquel nous attachons, évolue, travaille, et comment en fait aussi l'évolution de ces notions, ce travail, c'est du temps, et c'est des qualités qui se transforment, se déplacent, se confirment, hésitent, comme nous, voilà. Donc on fait une lecture qui est, est-ce que c'est une lecture maintenant, ou est-ce qu'on devrait trouver un autre mot? Je ne sais pas, j'imagine quelque chose comme planter, creuser, laisser remonter des graines. Elle n'est pas d'accord.
Pas de fondation.
Bon, mais je ne parle pas d'une fondation. Je parle d'un mouvement. On peut gratter, on peut recoller, on peut visiter les strates sans être dans la fondation. Hein. Et donc... Shifter en musique, il est beaucoup de questions de musique quand même dans ces passages-là, pas uniquement, mais quand même d'une façon dont le fait musical a quelque chose avec la mobilité, la mise en relation de choses qui ne sont pas empesées par le sens, par la signification, qui n'ont en tout cas pas cette... des limitations là qui ne la portent pas et qui au contraire du coup peut se laisser emporter dans des proliférations et des mises en forme et des propositions qui intéressent beaucoup Guattari. Il se trouve que par exemple le mot shifter en musique existe même au niveau des modules des synthétiseurs. Shifter, c'est changement, c'est bascule. Hein. On shifter de pitch, de hauteur, change de hauteur. Shifter d'enveloppe, shifter de filtre, voilà. Donc c'est en fait des façons, mais le shifter, ce qu'il y a, c'est qu'il bouge vite. C'est pas séquentiel. Et souvent, les shifters sont mis dans des états un peu de flottement, d'action... relativement avec un degré d'incertitude, disons, et où ce qui shift, voilà, ça va passer, repasser, revenir, partir, voilà, c'est un état instable en fait. Donc il faut bien donner les éléments de la bascule, et on ne dit pas non plus la vitesse de cela. Un shift, ça peut être un shift sur une échelle très lente, ou ça peut être un shift sur une échelle très raccourci. Et je pense que Guattari, il peut nous intéresser, par exemple nous musiciens, pas seulement musiciens, nous tous, parce qu'il le met aussi au niveau de choses qui seraient, qui relèverait peut-être de l'humeur, des états, des capacités de, bah, d'être alerte, d'être dans une dimension intuitive de cette possibilité-là, c'est-à-dire que la musique ne soit plus que l'affaire, ne soit pas que l'affaire des instruments, mais soit peut-être aussi l'affaire de nos instruments vie, de nos instruments corps, et de nos catalyses poétiques et existentielles. Donc je vais vous lire un tout petit peu, un petit début, qu'on retrouvera à l'œuvre, cette catalyse poétique et existentielle, au sein de discursivité scripturale, vocale, musicale ou plastique, et qui engage quasi synchroniquement la cristallisation énonciative du créateur, de l'interprète et de l'amateur d'œuvres d'art, comme de l'analyste et de son patient. Et je pense que c'est des situations, si je paraphrase, qui aussi peuvent se retrouver dans d'autres circonstances. Celle de la rue, celle du travail, celle de la relation amoureuse et toutes circonstances. Une telle fonction analytique et poétique s'instaure donc comme un foyer mutant d'auto-référenciation et d'auto-valorisation. C'est pourquoi on devra toujours la considérer sous deux angles. Premièrement, en tant que rupture moléculaire, imperceptible bifurcation, susceptible de bouleverser la trame des redondances dominantes, l'organisation du déjà classé, ou si l'on préfère, l'ordre du classique. Deuxièmement, en tant qu'elle sélectionne certains segments de ces mêmes chaînes de redondance pour leur conférer cette fonction existentielle assignifiante que je viens d'évoquer, pour les ritournaliser, pour en faire des fragments virulents, d'énonciations partielles, travaillant à titre de shifter, de subjectivation. Peu importe ici la qualité du matériau de base, comme on le voit avec la musique répétitive ou avec la danse buto, qui, selon le vœu de Marcel Duchamp, sont entièrement tournées vers le regardeur. Ce qui importe surtout, c'est la lancée rythmique mutante d'une temporalisation capable de faire tenir ensemble les composantes hétérogènes d'un nouvel édifice existentiel. Voilà, à partir de là, je crois qu'on a beaucoup à faire. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme écho chez vous, cette proposition, mais j'espère que les différentes petites... les différents points comme ça que certains ont préparés et cette réunion d'éléments hétérogènes que nous provoquons dans une soirée comme celle-ci peuvent au fond se raccorder sur un élan qui ne tient qu'à nous, qui ne tient qu'à nous partout ou toujours quand on fait quelque chose, il y a la façon dont une pensée ou une volonté ou une idée va se mettre en mouvement. Et je pense, si je dis encore quelques mots sur le shift et ce que d'autres personnes ont raccordé aussi à cet élément existentiel que Guattari a souligné, c'est sa capacité politique qui ne sépare pas le fait de la disposition intime du singulier, de ce qu'il y a de plus singulier en nous, et sa mise en mouvement en partage. Et comment pour lui, vers la fin de sa vie, cette dimension du mouvement est devenue peut-être plus importante que ce qui s'ordonnerait de manière cadrée. Et comment la réponse presque éthologique qui se ramène peut-être à ce que je vais dire une bêtise là parce que je veux pas parler de manière docte, mais comment on n'aurait pas été étonné par exemple de remarquer la lenteur, que ce soit face à des phénomènes climatiques comme le tsunami par exemple, où des tas d'animaux ont su avant que quelque chose se passait, qu'ils ont su se retirer, et que une lenteur énorme de la mise en route des signaux d'alarme chez nous est une preuve de notre, quand même, de notre distance par rapport aux signes organisés. Distance organisée, c'est peut-être pas une distance réelle. Et comment, dans les mouvements politiques qui en ce moment traversent certains pays, et peut-être nous à une autre vitesse, comment innerver cette composante et lui donner de la valeur. Voilà. Lui donner de la valeur, je pense que Chaosmos, c'est un livre qui donne de la valeur à ce qui risque d'être complètement, en fait, écorné et discrédité, alors que c'est peut-être, chose assez vitale.
Enfant dans le noir, saisi par la peur, se rassure en chantonnant. Il marche, s'arrête au cri de sa chanson. Perdu, il s'abrite comme il peut, ou s'oriente tant bien que mal avec sa petite chanson. Celle-ci est comme l'esquisse d'un centre stable et calme, stabilisant et calmant au sein du chaos. Il se peut que l'enfant saute en même temps qu'il chante. Il accélère ou ralentit son allure. Mais c'est déjà la chanson qui est elle-même un saut. Elle saute du chaos à un début d'ordre dans le chaos. Elle risque aussi de se disloquer à chaque instant.
Les shifters, tels que les définit Guattari, ils sont aussi pensés en relation avec le concept de ritournelle. L'idée étant que chaque individu ou chaque communauté fonctionne avec un rythme qui lui est propre. Un petit peu comme l'enfant dans le noir qui est obligé de chanter, d'imposer un rythme au chaos qui lui est donné. Et l'intéressant, à mon avis, c'est que Guattari distingue, comme passage d'une ritournelle à une autre, deux types de ritournelles qu'il va appeler, d'une part une ritournelle territoriale et de l'autre une ritournelle déterritorialisée. L'idée pour moi est simplement de donner un exemple de ce qu'on pourrait penser comme shifter, mais non plus au niveau individuel de l'enfant qui chante dans le noir, mais au niveau collectif. Je vais prendre un exemple qui est tiré de l'histoire des sensibilités, c'est-à-dire une historiographie qui s'intéresse à la façon dont les sensibilités elles-mêmes, c'est-à-dire les émotions, varient au cours du développement historique. Et pour ça, je crois qu'on peut partir de l'idée que jusqu'à la chute de l'Ancien Régime, les rythmes de vie, les ritournelles individuelles, étaient organisés autour de deux cycles, deux rythmes. Le premier, c'est le rythme cosmique, le rythme des jours. On se lève quand le soleil se lève et on se couche globalement lorsque le soleil se couche. Le deuxième rythme qui est imposé, c'est un rythme qui est lui qualitatif, c'est l'ensemble des rythmes imposés par le calendrier et notamment le calendrier religieux. Et ce calendrier, il joue à plusieurs niveaux. Et il joue notamment au niveau de l'année, c'est-à-dire qu'on organise l'année avec des jours chômés et des jours travaillés, et au niveau individuel, au sens où on organise la journée. Par exemple, On le sait peut-être encore aujourd'hui pour ceux qui passent du temps en Bretagne. Le matin sonne l'Angélus, et l'Angélus signifie le début de la journée pour l'ensemble du champ social, mais il a aussi une valeur symbolique, dans la mesure où cet Angélus sonne la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, et en même temps, ce symbole donc est greffé au rythme cosmique du lever du soleil. De la même manière, à l'autre bout de la journée, quand on sonne la retraite, quand on sonne les vêpres, on articule aussi à ce moment-là différents niveaux, à la fois symboliques et physiques. L'idée est qu'on introduit à ce moment-là une ritournelle de la journée, on rythme la journée comme on rythme l'année, et cette ritournelle que Guattari va donc nommer territoriale a une spécificité, c'est qu'elle articule différents niveaux dans un même signe. Par exemple, lorsque le clocher sonne, on a une première modalité qu'on pourrait nommer un marqueur territorial. Je l'appelle ici marqueur territorial, simplement le fait que l'ensemble des villageois, et uniquement l'ensemble des villageois, entend le son du clocher. L'autre commune n'entend pas ce son et est considérée comme une autre commune. Donc le son ici, la ritournelle territoriale, va créer des territoires sonores. Donc une première modalité qui émane de ce clocher. Deuxième modalité, je les prends au hasard, une modalité politique. On s'en rend compte au moment où, avec l'avènement de la République, on essaye de forcer les clochers à ne plus sonner que les éléments laïcs, d'éviter de sonner les rites de passage, d'éviter de sonner les baptêmes, d'éviter de sonner les mariages, et de privilégier au contraire les cérémonies laïques ou républicaines. On a également un marqueur religieux, relativement évident, dans la mesure où le clocher s'apparente à une relation, à un dialogue, au moment notamment des décès, des enterrements, un dialogue entre l'ensemble des vivants et l'ensemble des morts, etc. C'est-à-dire qu'on développe avec cette ritournelle territoriale une liaison entre des champs qui sont totalement hétérogènes à la base, qui nous paraissent à nous totalement hétérogènes, entre le champ physique, le champ social, le champ économique, le champ politique, etc. Et ce que va essayer de montrer Guattari, dans le passage de l'inconscient machinique qui précède celui qu'on vient de lire, c'est que, avec l'avènement de la société laïque et de ce qu'il va appeler le capitalisme, on va passer d'une ritournelle territorialisée à une ritournelle déterritorialisée. On va avoir ici un shifter, mais non pas un shifter individuel, mais un shifter collectif, qui va simplement reconfigurer les ritournelles individuelles et collectives, c'est-à-dire changer les rythmes qui vont structurer notre vie. Ça passe évidemment, comme je viens de le dire, par un changement des éléments, des marqueurs sociaux. Hein, c'est-à-dire, par exemple, les jours chômés ou les jours travaillés vont être modifiés. Ça passe également par toute une série de pratiques qui vont, par exemple, se traduire dans l'importance du temps de travail, l'importance de l'idée d'une temporalisation et d'une quantification du temps de travail. Ici, on trouve des exemples dans l'historiographie, comme par exemple l'imposition d'horloges sur les clochers, dans les gares, et aussi la systématisation dans les foyers de l'utilisation des montres ou des réveils, tel qu'on le trouve encore au début du XXe siècle, hein, une pratique qui ne s'est pas encore répandue jusqu'au début du XXe siècle. Donc l'idée est de dire qu'on a ici un shifter, mais un shifter qui n'est pas du tout un shifter individuel, qui n'est pas une bifurcation dans la vie des individus, mais qui est vraiment un shifter collectif, dans la mesure où l'organisation même de la vie, le rythme même de la vie, la ritournelle au sens de Guattari, va être totalement modifié. Et l'idée pour Guattari est d'aller chercher dans l'anthropologie, et notamment dans l'anthropologie amazonienne, un exemple d'une société qui n'impose pas des pratiques collectives ou des rythmes collectifs à l'ensemble des individus. L'idée étant de critiquer un modèle étatique qui imposerait une uniformisation des rythmes, une uniformisation d'une seule ritournelle à l'ensemble des individus. Et il trouve, donc dans l'anthropologie amazonienne, plusieurs exemples, et notamment le fait que, lors des rites de passage, les individus sont forcés de s'exiler du village et de s'imposer un rythme qui leur est propre. Ils quittent le village pendant plusieurs jours, ils doivent s'imposer une rythmique, une façon de vivre, un rythme de vie qui leur est propre. Et l'idée de Guattari est de relever toute une série de pratiques qui accordent à l'individu ce qu'il va appeler une autopoïèse, une valeur autopoétique, la capacité à se former sa propre ritournelle et à devenir lui-même, non pas simplement le consommateur d'un rythme général, non pas simplement le consommateur d'une ritournelle étatique, mais à devenir lui-même un shifter individuel, à bifurquer individuellement. Et ça, c'est une pratique qui va essayer de systématiser, c'est pourquoi le problème temporel est à la fois esthétique et politique, hein, comme Pascal le disait tout à l'heure. Il va essayer de le systématiser en le proposant au sein de la société contemporaine.
Su abrupto y salvaje sendero para entre las ciénagas desoladas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Pues, a menos que ponga en su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual como mínimo a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como azúcar en agua. No es bueno que todo el mundo lea las páginas que siguen. Solo algunos saborearán su peligro, ese fruto amargo. Por lo tanto, alma tímida, antes de adentrarte más por semejantes landas inexploradas, dirige hacia atrás tus pasos y no hacia adelante. Escucha bien lo que te digo. Dirige hacia atrás tus pasos y no hacia adelante. Como la mirada del hijo se aparta respetuosamente de la contemplación augusta de la faz maternal, o mejor, como el ángulo perdiéndose en el horizonte de las friolentas grullas tan meditabundas que durante el infierno vuela poderosamente a través del silencio con todas las velas tendidas hacia un punto preciso del horizonte de donde súbitamente brota un viento extraño y fuerte precursor de la tormenta.
Thank you.
Dornelas. Les autres y passent. Tu viens de faire chanter un enfant dans le noir. Tu l'as fait chanter avec un accent un peu américain. Il y a des enfants américains aussi, ça marche. Toi, tu viens de mettre l'autre amant en espagnol. Pourquoi pas? Il venait bien d'Amérique du Sud, au fond. La ritournelle. Comme on la pense ici comme une entrée à l'improviste, une entrée de gens qui ont des sièges là-bas. Une entrée à l'improviste, dans la ritournelle, le terme avait été choisi par Guattari, parce que bon, il y a toute une petite histoire aussi, parce que ritournelle veut dire une chose qui revient sur elle-même, dans l'ordre du son. Pas seulement de la chanson, mais aussi de la redondance. Et puis, Lacan avait choisi ce mot pour dire ce qui se passe lorsqu'on fait des vocalises et qu'on est schizophrène et qu'on a envie de répéter plusieurs fois la même chose. Ritournelle, dans cet enfant qui chante dans le noir, ce qui est prenant, poignant dans cette histoire, c'est l'action de la chanson. Camille vient de parler des cloches. Les cloches, bien sûr, elles chantent. Quand les cloches articulent des chants politiques et sociaux, elles le font avec du son. Ce sont des chants qui sont articulés avec des chants, qui sont articulés avec du son qui perle et puis qui entoure et qui fait du collectif. Alors c'est intéressant aussi de voir que l'enfant qui a chanté dans le noir, cet enfant qu'on a été. Il n'est pas interdit de penser qu'on redeviendra, par exemple, qu'on descendra ici, dans le noir, vers le métro. Cet enfant dans le noir n'a jamais été tout seul. D'abord parce qu'il est dans du langage. Il est en train de chanter. C'est bien une voix qu'il a dans la gorge. Et la voix qu'il a dans la gorge et qu'il pousse, c'est cette voix qui assure une toute petite bulle, une bulle écologique, une bulle écologique, une sémiotique. Une sémiotique, comme on aime à le dire ici, c'est-à-dire quelque chose qui est d'emblée, déjà, quelque chose qui a affaire à un enfant qui est en train de consolider son identité, c'est quelque chose qu'on a fait nous aussi, à un moment quand on a réussi à dire « je », ce n'était pas si simple, et qui a pris du temps. Et avant qu'on le dise, ce « je » est aussi immédiatement, non pas seulement l'affaire, disons, de la psychologie. C'est une affaire politique. Un enfant qui, dans le noir, fait un centre, ensuite, on est chez soi. Maintenant, on entr'ouvre le cercle. Ces trois moments de la ritournelle, comme vous pouvez les lire si vous avez envie, dans le 12e plateau de 1000 plateaux. Ces trois mouvements, chanter dans le noir, être chez soi, entre-ouvrir le cercle. Ils sont coexistants. Il n'y a pas d'abord du chez-soi, et puis après on entr'ouvre. Il faut d'abord entr'ouvrir pour qu'il y ait du chez-soi. Et le chez-soi n'a jamais été tout seul un enfant. Le chez-soi, ça a d'abord été une chanson. Et dans la chanson, il y avait du saut possible. Le saut était dans une chanson, et maintenant on ne va pas croire non plus que la chanson toute seule fait des choses à notre insu. Cette chanson, c'est un ensemble sémiotique vital, très simple aussi, exactement comme les tables ici, comme l'électricité du micro qui fait ou non passer des électrons sonores qui plaisent ou qui ne plaisent pas à certains d'entre nous, et où le collectif doit être pensé dans la manière dont ces signes prennent une coloration qui est une coloration au plus près de nos matières d'expression. Quand je dis matière d'expression, comprenez ceci. Je ne vous claque pas. claque pas beaucoup aussi, n'importe quoi qui brusquement passe de fonctionnel à expressif. Ce passage de fonctionnel à expressif, voyez-le aussi dans la fondation de Rome. Dans la fondation d'une ville, ce sont d'autres qui ont appelé sa fondation. Nous, on s'en toque. Nous, on s'en tape. Mais dans fondation de ville, aussi, ouverture d'un cercle. Ouverture d'un cercle. Tenture mobile de signaux. Rougeur, vocalise, un ensemble multisensoriel. Et cet ensemble multisensoriel, il fait le point de départ de l'art, pas du tout simplement à partir du seuil humain, il pense le point de départ de l'art, dès qu'il y a du vivant qui habite quelque part. Alors ça peut être les fous bleus qui montrent leurs pattes bleues à leur compagne avant de revenir dans leur nid. Les fous bleus font ça. C'est pour ça qu'on les appelle des fous. On les appelle des fous bleus parce que leurs pattes sont bleues. Et c'est comme ça qu'ils signalisent et qu'ils entrent et qu'ils sortent. Et en réalité, dans nos territoires humains, les types de sémiotiques que nous utilisons, Camille nous a parlé de sémiotiques pré-capitalistiques, de sémiotiques avec la cloche qui sonne. Nous nous sommes habitués à la sémiotique de la SNCF. Ding-dang-dong, SNCF. C'est aussi un temps qui bat le rythme. Et ce temps qui bat le rythme, c'est pas seulement en rapport avec la petite boule terre accrochée sur son périmètre de mouvement autour du soleil, il est très fort lié aussi au type de territorialisation par lesquelles nous vivons et nous signalisons ensemble. Nous l'avons toujours déjà fait en mode collectif avant d'être capable de le rebattre en territoire existentiel. Nous l'avons toujours fait en mode collectif avant d'être capable de faire shifter ces signes pour les catapulter dans d'autres directions. Ça fait apparaître l'art pas du tout pour quelque chose qui serait une sorte de distraction le soir lorsqu'on ne sait pas où aller la nuit et qu'on veut se réfugier à Montreuil. Et ça fait apparaître l'art pour quelque chose qui prend consistance dès qu'il y a propriété et avant qu'il y ait propriété, comme un des modes possibles d'un expressif qui se dégage parfois en possessif, mais dans certaines sociétés seulement, pas dans toutes, et pour lesquelles le fou bleu, l'oiseau Dentirostris kebopoietes, qui est un oiseau australien, a autant de chances que nous, que toi Déborah, que nous ici, de faire valoir quelque chose qui palpite et qui en réalité transforme la façon dont les signes autour de nous nous ont déjà fait exister et au sein desquels nous, nous nous rebiffons. Nous nous rebiffons par des fragments virulents que nous essayons de faire sonner plus fort.
En fait, ce mot shift, shifter, et la lecture de Chaosmos nous a inspiré, Déborah et moi, pour mettre au point un certain nombre comme ça de manières de faire sonner l'instrument et aussi de travailler ensemble et aussi d'entrer dans un processus comme ça qui à la fois fixe les idées et en même temps n'est pas écrit. N'est pas écrit sur du papier ou sous forme de diagramme, mais est écrit quand même dans son intention et dans son idée. C'est une idée qui, elle, s'est beaucoup écrite à deux. Et on peut dire aujourd'hui, par exemple, que moi, j'aurais jamais écrit cette pièce sans Déborah. Et je crois que t'avoir entendu dire, t'as pas de micro là pour le dire, que c'était pas non plus quelque chose que t'aurais... Enfin voilà, que c'était le produit d'un échange sur lequel on a passé un temps merveilleux et qui est peut-être pas fini, et en tout cas qui nous a investi dans qu'est-ce que c'est que construire cette idée de shift, quoi. Hein, c'est peut-être pas au début que c'était clair, Mais à un moment, pour moi, en tout cas, j'avais un peu tendance à vouloir attraper. Un jour, tu l'as noté sur un papier, et comme tu l'as noté, tu me l'as redit, ça m'aide parce que maintenant je m'en rappelle. Et tu avais noté que c'était un point de connexion qui se déplace, hein, c'est ça ? Qui se déplace continuellement. Un point de connexion entre quoi et quoi, très bêtement, c'est des choses très pragmatiques sur la de prendre un instrument, non pas comme un instrument qu'on connaît complètement, le violoncelle, mais comme un instrument qu'on redécouvre parce qu'on a changé quelques éléments importants quand même, mais qui font que on doit réapprendre le geste, ou on doit se reposer la question. Qui n'est plus du tout la question d'idiome mélodique ou harmonique qu'on connaîtrait, mais qui est vraiment la question de se mettre à les découvrir. Moi, je peux te laisser un peu.
Oui, il y a aussi l'idée de changer l'instrument, parce que voilà, on a tout simplement, entre guillemets, mais ce n'est pas si simple non plus, on a changé l'accord. On a changé les cordes, la hauteur des cordes, et c'était en fait un élément de déstabilisation, primairement. Donc, comment dire, c'était pas évident au début de notre travail, mais pour à mesure, cette idée de shifter est arrivée. Il faut dire aussi que le travail était en même temps aussi que les lectures de l'année dernière. Donc, la pièce, après, c'était évident, elle s'est appelée Chaos quelque chose, Chaos Kacha.
Et, elle dit Chaos Cello tout à l'heure.
Moi, j'appelle ce violoncelle pour, voilà, parce que l'autre, il est là, comment dire, je ne les ai pas mis tout près, hein, parce que chacun a un peu son univers, c'est un autre shifter de violoncelle. Hein. Mais en fait, c'était peut-être surtout ces éléments de très... Il y a beaucoup de contradictions aussi, ou en tout cas de contrastes dans ce travail. Donc on construit une pièce et en même temps on la construit sur des états d'instabilité continue. Et ça, moi, je n'avais jamais connu, parce que normalement, quand on construit, on a envie que ça prenne, que, voilà, et que ça soit stable, qu'il y ait des fondations peut-être aussi. Et là, en fait, voilà, le parti pris, ça a été, non, pas de fondation, on flotte dans l'air. Et pas seulement, comme on passe d'une chose à l'autre de manière toujours avec rupture, en fait, il n'y a jamais une fin, une vraie fin, comment dire, comme on l'a classiquement. Donc, ça veut dire que les sections n'ont pas de bord. Que ces bords, c'est toujours des ruptures, en fait. Et on passe d'un mot à l'autre. Et ça aussi, c'était très passionnant. Et en même temps, un vrai défi. Un vrai défi.
Je crois qu'on ne peut pas montrer le chiffre, parce que ça serait toujours un peu idiot, enfin idiot au sens où ça peut pas se montrer, mais la relation peut-être c'est, une relation possible c'est peut-être le skateboard ou le surf, c'est-à-dire le fait qu'il y a quand même une envie, il y a des forces, il y a quelque chose qui est en jeu, qui est excité, qui est pour faire du son. De toute façon, faut quand même exciter des objets d'une manière ou d'une autre, ou même si c'est électronique, même si c'est pas directement physique. Et il y a quelque chose qui est forcément lancé. Et après, c'est effectivement ou bien on sait ce qu'on mélange. Ou bien on est un point au milieu des choses qui en fait trouve des appuis, ou va les chercher, va sauter sur un bord d'un banc ou de l'arête d'une marche, comme on voit les enfants qui savent vraiment bien faire du skateboard, c'est assez extravagant la manière dont ils arrivent à attraper une surface, un bout et à les connecter avec la planche sur laquelle ils sont en fait en équilibre. Et c'est quand même ce, je pense que le process du shift, c'est quand même un peu quelque chose comme ça quand il y a en tout cas le corps qui est engagé et une production comme le son en tout cas. Peut-être tu peux lire cette petite phrase là, tiens.
Le temps n'est pas subi par l'homme comme quelque chose qui lui adviendrait de l'extérieur. On n'a pas affaire à du temps en général et à de l'homme en général. Un enfant qui chantonne dans la nuit parce qu'il a peur du noir cherche à reprendre le contrôle des événements qui se déterritorialisent trop vite à son gré et qui se mettent à proliférer du côté du cosmos et de l'imaginaire.
On a retrouvé l'enfant une seconde fois, mais cette fois-ci, sa maison s'est ouverte. Dans cette phrase-là, c'est-à-dire dans cette apparition-là, et c'est quelque chose aussi qui est assez surprenant dans l'écriture de Guattari, c'est que la notion, par exemple, de ritournelle, ou peut-être de shifter, bien qu'elle revienne beaucoup moins, elle-même est instable. Elle sera tout le temps sous un signe qui risque de se présenter de façon différente selon la façon dont elle est lancée, le contexte dans lequel il se trouve. Les notions ne sont pas des objets, sont des mouvements. Alors, dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui passe ? Un ange ?
C'est peut-être le moment de saisir la balle au bout, de s'en emparer en fait, en quelque sorte. Ce bon de prendre le risque de se tromper, de tenter le sort, de dire oui, en effet, cette expérience est peut-être importante, jouer l'événement comme porteur éventuel d'une nouvelle constellation d'univers de référence. Et si je puis me permettre, pour compléter cette histoire de shift, il y a aussi son utilisation astronomique, le redshift, le décalage vers le rouge, ça se fait d'une façon relativement continue, et tout comme on peut aussi embrayer vers l'amplification, là on arrive aussi à des effets de diminution, et tu as fait référence aussi à l'utilisation de, en quelque sorte, de la bascule, parce que le shift en musique, c'est aussi une sorte d'opérateur, et en fait, ça travaille sur des choses qui sont construites et qui sont une sorte d'alternance, ce qui fait que brusquement je me suis dit qu'il pouvait y avoir aussi, ce qui m'était jamais venu à l'idée à propos du shift, il y a deux extrémités, enfin deux sortes d'extrémums, c'est que d'un côté il y a cette espèce de variation continue qui est plus proche du sens courant de shift en anglais, et ce qu'on en a fait dans la technique qui consiste en fait à alterner des réglages. Et ça me paraissait relativement important aussi en ce qui concerne le discours musical. Et par rapport au travail de Déborah, que je trouve personnellement admirable, c'est un petit aparté, ce problème de modifier en fait les hauteurs sur un instrument dont on utilise les résonances. Moi, quand je travaille en improvisant, c'est pareil, c'est le même type de bascule, parce que je travaille sur un instrument tempéré, un instrument à hanche libre, et je ne suis pas censé pouvoir modifier le timbre, etc. Et les astuces que je trouve, c'est d'augmenter la pression, c'est d'effleurer les notes, c'est de créer une multitude d'instabilités sur un instrument qui, logiquement, devrait rester... Donc, tout tourne au point d'ancrage et voilà.
Je joue de l'accordéon et l'accordéon est fait de petites hanches comme les tuyaux d'orgue, enfin en miniature quoi.
Ce sont des hanches libres, en fait, comme l'harmonie.
Voilà, et qui sont en fait ajustées et qui, pour les détourner effectivement, c'est tout un art du détournement, ouais, c'est ça. Et puisqu'on est sur ce thème-là, sur de la musique et des passages et des ruptures, Thierry, est-ce que tu nous parlerais un peu de ce qui m'a fait te demander d'être là, c'est la poésie. Je ne sais plus quel terme, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire cette mise en mouvement de choses hétérogènes que je t'ai vu pratiquer et que j'aimerais que tu racontes. Je ne sais pas ce qui peut devenir à l'esprit d'ailleurs.
Moi non plus, enfin c'est l'histoire d'improvisation, c'est-à-dire que dès qu'on doit improviser, on ne sait pas de quoi on improvise et avec quoi. On a des moyens techniques parfois, enfin des préparations, puis ça, tout dépend avec qui on improvise, parce que seul on n'improvise pas vraiment. Enfin, c'est complexe l'histoire. Et donc au niveau de l'improvisation en général, dans ma pratique plutôt passée, mais c'est on cherche à d'abord se rencontrer. Peut-être, si je reprends des mots, à créer une ritournelle ensemble. Et puis, cette ritournelle, si on la laisse s'installer relativement longtemps, elle se referme sur soi. Et puis, pour moi, j'ai l'impression qu'elle peut avoir une tendance à s'épuiser. J'ai peur de l'épuisement de cette ritournelle. Et bien avant, j'ai envie de pas m'en échapper, mais de l'éclairer d'une manière différente, et de m'en écarter pour peut-être avoir une autre vue sur ce qui fabriquait cette ritournelle, ce qui faisait... Et s'installer dedans, c'est une forme de confort, et ça me dit en général, j'ai l'impression que le public à distance de cette ritournelle, on sait une matière qui peut être très belle, une forme de bain sonore, de miroir, tout dépend de la forme qu'elle a prise, et de prendre de la distance, c'est une manière aussi, pour moi, de penser que, d'abord, de savoir comment elle pouvait être fabriquée, à l'instant même, de la rétro-éclairer, je dirais, c'est-à-dire... un acte assez surprenant qui me surprend des fois moi-même ou en utilisant des moyens techniques pour expliquer qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe d'un seul coup mettre de l'incongru dans une chose qui était très contrôlée ou plus ou moins ou qui le devenait qui était très, très lissée permet aussi des fois ça change le sens de ce qu'on vient d'entendre et rétroactivement surtout et ça il arrive parfois ce genre de surprise. Et puis, autre chose, ça permet pour moi à l'auditeur, à l'action d'entendre, d'écouter, et qui devient une réelle action, parce que d'un seul coup, il y a une place pour s'immiscer dedans quand on est à l'extérieur de l'action de jouer. C'est-à-dire pour les gens qui écoutent, d'un seul coup, dès qu'il y a un changement brusque, une fêlure, ça peut entraîner une fêlure, une ouverture, d'un seul coup, on voit de quoi peut-être était faite la matière sonore ou la forme sonore ou ce qui est en train de se passer que personne ne contrôle véritablement et du coup ça permet à tout le monde de s'en emparer à sa manière, pour lui-même, etc. Enfin, c'est un peu ça se fait dans un état de souvent quand on peut l'avoir d'un peu d'hypnose quasiment puisqu'on est conscient et pas conscient de ce qu'on fait et en même temps on a mis des choses en place pour le permettre enfin, voilà, enfin en gros pour moi c'est intéressant. Alors du coup, ça a l'air de s'appeler Shift, pourquoi pas.
On ne ramène pas tout le Shift, c'est le contraire, en fait. C'est le Shift qui nous permet de...
Shifter. Voilà.
On n'est pas en train de ramasser, de ratisser vers le Shift.
C'est le premier mot que tu m'avais parlé, et puis ça me disait, évidemment, j'ai vu ça, pas que sur l'ordinateur, mais dans les premiers ordinateurs avec la musique, il y a une vingtaine d'années, moi sur les synthétiseurs. J'ai jamais trop bien compris ce que c'était, puisque la traduction française sur l'ordinateur n'est pas arrivée, ou sur un patient ordinateur, sur des synthétiseurs. Ça n'a jamais été marqué, volume, oui, mais enfin, ça va même en anglais. Mais enfin voilà, c'est difficile de dire plus pour l'improvisation, mais pour les changements de niveau aussi, c'est un peu des changements de relier ce que. Oui, il faut relier des choses d'un seul coup. Sans ça, on est sur un plateau. Moi, ça m'enferme d'être sur. Même si ça peut être très beau, agréable, et j'ai envie de relier. Puis, oh oui, on peut passer à un autre niveau. Puis, si on peut passer à un autre endroit encore. Et ça permet d'ouvrir et que tout le monde s'y retrouve là où il est. Et puis, voilà, ça. Sans éclatement. Ça, pour moi, c'est pas une forme d'éclatement. Il n'y a pas de rupture. C'est pas véritablement des histoires de rupture, mais bon voilà, c'est ça qui m'intéresse dans les cas de musique improvisée et qui nourrit mon esprit L'oreille, c'est une chose, mais au moins l'esprit et surtout la capacité d'action, on va garder au maximum, en gros.
Mais quand même, ça te permet de mettre en relation, des fois, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé mettre en relation. C'est...
Oui, des choses se mettent en relation, voilà, d'elles-mêmes, enfin, pas d'elles-mêmes, mais oui, d'elles-mêmes. Oui, un vélo à tube, mais ça, oui, c'est des choses pratiques. Des fois, on prend, si on cherche à mettre en relation de manière complètement, enfin, pour moi, si c'est conceptuel avant, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ça soit des obligations physiques, comment faire tourner quatre manivelles, enfin, avoir quatre sons en même temps qui soient de l'ordre, par exemple, c'était là, des manivelles, des sirènes à main, bah, il faut être assis sur quoi, sur une chaise, ça ne marche pas, un vélo, c'est parfait. Un vélo d'appartement, c'est ce qu'il y a de mieux. Par exemple, c'est des choses comme ça, et oui, il faut prendre une solution relativement simple, même si elles sortent du monde dans lequel on a l'habitude de tourner, et d'évoluer, et de aller chercher ailleurs un peu. Et là, on a des chances de faire des choses particulières, puis il faut oser être l'absurdité de certaines situations, et le risque, ça ne marche pas du tout, mais quand ça ne marche pas, on se pose c'est souvent plus nourrissant et plus... De l'expérience de pas de l'échec mais de tout ça racle ça enfin voilà ça c'est tout.